Bonjour chers auditeurices et bienvenue dans cet entretien de la matinée du jeudi 27 mars. Il fait très beau dehors, c'est déjà le printemps. Et ça va être aussi le printemps puisque nous allons partir en Italie, mais je vais vous en dire un peu plus rapidement. Je suis accompagnée en début par Yann qui, je crois, remettra un moment la technique dans les mains de Léonie. Merci à tous les deux de nous accompagner. Et oui, ce matin, on va parler de cavale et d'Italie. Alors, le lien entre les deux, la cavale, vous connaissez sûrement tous cette magnifique librairie du quartier des Beaux-Arts. Et pourquoi l'Italie? Eh bien, parce que tout le mois de mars jusqu'en avril, il y a encore quatre événements, la cavale part en Italie. Pour en parler, je suis accompagnée de deux belles dames, Rosemarie Oriols. Bonjour Rosemarie.
Bonjour.
Je crois que vous connaissez bien le micro ici. Hein ?
Oui.
Vous êtes venue assez souvent. Et puis Simona, que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, quand Claudia Montanari est venue présenter avec... Elle n'était pas seule.
Frédéric Maillet.
Avec Frédéric Maillet. Son événement expo, hein, voilà, c'est très créatif, qui s'appelle Anima Urbis.
Oui.
Et donc, c'est Simona Miglietta que j'ai eu le bonheur de rencontrer avec son beau sourire à cette occasion. Merci toutes les deux d'être venues.
Merci à toi.
Et puis, vous allez nous raconter donc, ce qui se passe à la cavale, mais surtout ce qui va se passer. Donc, un petit rappel peut-être sur la cavale, Rosemarie. J'ai eu le bonheur de faire partie début décembre, je crois que c'était le 5 décembre 2018.
Et oui.
Ah, c'est la date, je m'en souviens. Oui. Voilà. Et c'était mon premier reportage à la radio. Puisque j'étais à la sortie de cette inauguration, où il y avait plein de choses hein, qui se passaient. Il y a eu un mur de photos qui s'est construit. Enfin, voilà. Il y avait toute l'équipe du début. Oui. Et moi, je faisais des cartes. Hein, je faisais des abonnements, puisque j'ai même été dans l'association qui s'est transformée, pas en SCOP, mais...
En SIC.
En SIC, voilà. Donc avec des assemblées générales, quand on a fait tout ça, c'était super. Et donc ça fait maintenant 7 ans quasiment,
oui.
6 ans et demi.
Ouais. Oui. Voilà, donc c'est une entreprise merveilleuse, moi, je trouve. À l'origine, évidemment, c'est un groupe d'une douzaine, comme tu viens de le décrire, d'une douzaine d'utopistes qui ne pouvaient pas se résoudre à voir leur quartier, à vivre dans un quartier sans un lieu de lecture. Et donc, ils se sont mobilisés, la douzaine est devenue une cinquantaine, et maintenant, il y a un peu plus de 400 coopérateurs à la cavale. Alors, je le redis, peut-être que les auditeurs savent déjà, mais c'est toujours très important de le redire. C'est une SIC. Une SIC, ça veut dire une société donc réglée par les règlements qui gèrent les sociétés commerciales. Hein. C'est un lieu de vente de livres. C'est une coopérative qui est détenue, gérée, animée par les coopérateurs et selon un principe qui est un vote de coopérateur. Un coopérateur égale une voix, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Donc, c'est une organisation qui ressemble vraiment à une ruche. 400 coopérateurs, des comités, de nombreux comités de gestion, d'animation, de communication, d'administration, de maintenance, un conseil, un bureau, une présidence, et j'oublie sans doute certaines instances, mais voilà, une ruche. Et l'intérêt collectif, pourquoi ? L'intérêt collectif parce que ce sont les clients qui s'impliquent et qui ne sont pas des simples consommateurs. Parce qu'agir dans une coopérative, c'est agir collectivement, c'est créer de la solidarité, c'est créer de l'intelligence collective. C'est construire ensemble, c'est lire, parler des livres, rencontrer des auteurs, organiser des animations dans la librairie et hors la librairie avec d'autres partenaires. Voilà, c'est ça, une société d'intérêt collectif, coopérative et indépendante.
C'est une grande réussite, hein, parce qu'évidemment, il y a des événements sur place. Il y avait, alors à un moment, vous l'avez toujours, la petite charrette ?
Oui,
voilà,
oui,
la petite charrette que j'ai vue alors, dans les jardins de la Maison Chopin, que j'ai vue à Voix-Vive quand il y avait eu une balade avec Michel Moatti. C'était la cavale qui était là. C'est beaucoup d'énergie à demander aussi aux bénévoles. Hein.
Oui, beaucoup d'énergie, effectivement. Mmh. Hein. Alors, il y a des engagements, on va dire, qui peuvent être à géométrie variable. On pourrait dire tout le monde n'est pas engagé de la même force et dans la même implication. Mais oui, Ça permet à chacun qui a des compétences, qui aime la lecture, qui est intéressé par l'idée de ce projet collectif, de s'impliquer, plus ou moins. Voilà.
Bah, j'en profite hein, pour faire un petit signe aussi à tous ceux que j'aime et que je connais un peu. Bah, Sylvain, évidemment, Marguerite, qui est une femme formidable. Voilà, ah, il y a des très belles... je ne connais pas tout le monde, mais il y a vraiment des très, très belles rencontres aussi à faire humaines à la Cavale. Ce n'est pas seulement une rencontre littéraire, non. C'est qu'il y a des rencontres à faire humainement. Là, donc, on commence à parler de la Cavale en Italie. On peut juste évoquer les deux événements qui se sont passés. Donc, le 4 mars, ça a été avec Paola Casadei, que j'ai eu le plaisir de recevoir. Alors, Simona, si tu peux redire le nom du livre qu'elle avait écrit.
L'éléphante est déjà in valise. Voilà. In valigia. Alors en français, c'est peut-être l'éléphant est déjà dans la valise.
Un éléphant dans la valise. Ah, voilà. Parfait, voilà. Que j'avais eu le bonheur de rencontrer Paola dans le salon du livre qu'organisait Francine Beau et à Saint-Mathieu de. Non, pas à Saint-Mathieu, à Saint-Clément-de-Rivière. Voilà. Donc. Elle nous a parlé des romans noirs, Paola. Et puis, vendredi 14 mars, il y a eu les coups de cœur de la littérature italienne. Qui est-ce qui a animé ces rencontres, Simona?
Pour l'animation, alors pour les polars, romans noirs et papy, c'est quelque chose que nous avons construit avec Paola. Donc j'ai animé la soirée, qui était une super soirée, vraiment très belle. Il y a eu beaucoup de personnes, mais vraiment la librairie était plus pleine. Et avec beaucoup de joie, de découvrir, de partager. Ça a été vraiment une soirée formidable, comme Paola qui est quelqu'un de vraiment formidable, qui arrivait avec beaucoup d'anecdotes. On avait fait un magnifique PowerPoint où on montrait aussi beaucoup de ce qui se cache derrière un roman noir, un polar qui se situe dans une région ou une autre d'Italie. Et bien sûr, c'était lié aussi. L'idée, c'était de partir de la nourriture, de la cuisine dans ces genres littéraires. Et à la fin de la soirée, nous avions préparé des recettes que nous avions prises de ces romans dont on parlait. Donc, on a fini par déguster aussi les recettes dont parlent les auteurs et les autrices dans les romans dont Paola nous a parlé. C'était vraiment une très très belle soirée qui a beaucoup plu et qui donnera peut-être vie à un nouveau cycle là-dessus avec Paola. Ça, on est en train d'y réfléchir.
Et puis ce soir, alors qui des deux nous en parle? Donc jeudi 27, c'est ce soir à 19h, il y a Encres et Bobines avec Jeanne Bréchet. C'est là le cinéma, vous abordez le cinéma. C'est Simona qui nous en parle?
Oui, on abordera le cinéma et la littérature. Comment certains réalisateurs ont souhaité transposer, adapter la littérature, une certaine littérature au cinéma. Et Jeanne, ce soir, elle nous parlera surtout de ce qu'on appelle le néo-réalisme italien. Et on commencera par la question, mais qui est-ce qui a ouvert le bal du néo-réalisme au cinéma?
Je dirais Vittorio De Sica, mais bon, je me gourre peut-être. Hein. C'est pas
Et ben, il faut venir découvrir ce soir. Et il s'agira aussi d'un auteur que le réalisateur, dont je ne parlerai pas maintenant, mais dont il a souhaité adapter les romans, qui était Giovanni Verga, qui n'est pas très connu en France. Il a été un peu victime probablement d'une certaine époque aussi par rapport au rapport entre littérature française et italienne. Mais en tout cas, voilà, on va redécouvrir aussi cet auteur qui a été un peu considéré le père du vérisme, qui était quelque part le réalisme, le naturalisme français, mais très ancré en Sicile. Mmh. Et Jeanne, on l'a déjà vue à l'œuvre ici au Dôme, par exemple. Elle est enseignante d'histoire du cinéma, d'analyse filmique. Elle travaille à l'école Travelling, elle tient des ciné-clubs à Téhéran, à Latte. Enfin, elle fait beaucoup de choses. Et à chaque fois, c'est un bonheur de l'écouter parce qu'elle est très vivante quand elle partage toutes les connaissances incroyables qu'elle a, parce que c'est vraiment un puits de savoir incroyable avec sa passion et avec une telle joie de partager qu'on passe des soirées où on apprend énormément de choses et on s'en rend pas compte et on en sort vraiment ravis. Donc je pense que ça va être encore une très belle soirée. C'est notre troisième soirée.
C'est vrai qu'on l'a oublié, mais le cinéma d'après-guerre jusque aux années 80-90, mais enfin moi je suis une grande fan d'Affreux, sale et méchant, de tout ce cinéma cinéma qui a commencé avec Le Pigeon, pour moi, un des premiers. Pour ça, je parlais de Sica, parce que c'est Le Voleur de bicyclette. Hein.
Oui,
pour moi,
oui,
voilà,
oui,
c'est
oui.
assez fondateur. Oui. Mais après, il y a eu quand même 30 ans de cinéma absolument formidable en Italie. Aujourd'hui, on en parle plus beaucoup du cinéma italien. Il reste juste celui qui a écrit La Chambre du Fils.
Nanni Moretti,
voilà.
par exemple.
On parle beaucoup de Nanni Moretti, de celui qui était très extravagant. Et qui a fait le film sur quand il part avec son fils en camp de concentration.
Benigni, Roberto Benigni.
Mais moi, c'est les deux grands derniers du cinéma italien. Je connais plus grand chose.
Alors on va aller à la racine de tout ça.
D'accord.
Donc on va être en période de guerre.
D'accord.
Parce que ce premier film a été tourné en 42, en pleine guerre et en plein fascisme, par un réalisateur antifasciste quand même. Donc tout ça, elle nous le racontera.
Ça va être
Je ne vais pas spoiler. Alors... Et pour le cinéma actuel, il y a quand même beaucoup de films italiens qui sont surtout montrés au Festival du Cinémed, qui est né comme festival, je crois, du cinéma italien. Voilà, il faut aller au Cinémed surtout, mais je crois que les cinémas actuels, le Diagonal aussi, ils montrent quand même d'autres réalisateurs. Mais il faut vraiment guetter. C'est pas tout le temps.
Cinémed, ça marche. À chaque fois que j'y vais, c'est complet. Moi, les salles, elles sont pleines. À chaque fois, c'est vraiment... Toutes les séances, il y en a. Hein. Oui. C'est vraiment très, très... Et donc ça, c'est ce soir à 19h.
Oui.
Hein, il fait tellement bon qu'on pourrait mettre les tables dehors hein, s'il y a trop de monde.
C'est vrai. Peut-être pour l'apéro qui suit
voilà,
toujours.
Hein, voilà. Donc, Encres et Bobines. Le titre est super en plus, hein, je trouve. Encres et Bobines avec Johan Bréchet. Donc, il parlera littérature et néo-réalisme et les sources du néo-réalisme dans les années 42 en Italie. J'ai tout bien noté.
Si je peux ajouter une petite chose, tu avais parlé initialement de Claudia Montanari.
Oui.
En fait, pendant tout ce mois, nous avons aussi l'exposition de Claudia Montanari, la partie sur Palerme. Voilà, je ne sais pas si...
J'allais en parler, mais c'est très bien. Non, mais c'est très bien, Simona. Mais c'est vrai que voilà, je voulais rappeler qu'on mettra le lien pour l'émission qu'on a fait avec Simona et Claudia et Frédéric, qui parle de cette expo qui est quand même assez incroyable. Et oui, de Palerme, parce que rapidement, en Italie, on passe à Palerme. Enfin bon, quand je reçois Florian Mancione, hein, qui est sicilien, ou dès que je parle de la Sicile, la littérature, la bouffe et le cinéma, c'est un peu ramassé à Palerme. Et l'histoire, bien sûr.
Oui,
bien
sûr. Oui. Et j'ai oublié de dire aussi une petite chose, excuse-moi, par rapport à tous ces événements. Ils sont aussi soutenus par des associations personnes passionnées d'Italie à Montpellier et aussi par l'Institut de Culture de Marseille, qui s'intéresse beaucoup à tout ce mouvement qui se fait autour de la culture italienne à Montpellier, et aussi par le département d'italien de l'université Paul Valéry.
Ben voilà.
Et dans les associations, il y a Italia Due Passi, voilà, il y en a plein, il y a
Dilettanti,
etc.
Comment, on va dire comment en savoir plus sur le site de la Cavale, mais par exemple sur ses partenaires, etc., vous échangez un peu, on peut savoir qui justement partage ces moments-là avec vous, ou c'est juste en les citant comme ça
Alors, d'une part, il y a une association qui agit peut-être le plus dans ce cadre, parce que c'est l'association aussi dans laquelle je travaille. Donc,
vas-y, c'est le moment de la citer. Hein.
Italia a due passi, voilà, dont Rosemary est aussi membre.
Oui, donc moi, je peux en parler en tant qu'apprenante. Hein. Moi, je suis passionnée d'Italie depuis longtemps. Et depuis plusieurs années, je suis, on va dire, élève ou apprenante de Simona Miglietta, qui... œuvre vraiment pour qui est une ambassadrice ardente de la littérature et de la culture italienne. Et donc je suis ses cours depuis un moment, et c'est comme ça que d'abord je suis arrivée à la Cavale par une autre voie, mais aussi à ce mois italien qu'on organise. On est un petit groupe de la Cavale à l'organiser. Il y a donc Marie-Thérèse Chemla, qui est une coopératrice de longue date, et Sylvie Goebel, qui est aussi coopératrice, et puis Simona, et puis moi. Donc on a été ce petit groupe initiateur, avec évidemment le soutien des autres coopérateurs et des libraires aussi de la librairie. Voilà, donc moi je voulais dire qu'en fait ce mois italien, il est arrivé à la Cavale, il est porté par ce petit groupe, mais aussi beaucoup par Simone, d'abord par son attache avec le département de l'université, du département des études italiennes, et puis l'association A Due Passi, et avec les contacts dont elle a parlé précédemment. Voilà,
ça c'est pour. C'est important d'en parler.
C'est important d'en parler. Quoi. Voilà.
Après, c'est samedi. Donc, il y a des lectures jeunesse bilingues. C'est super, ça, comme idée aussi, de toucher toutes les classes d'âge. Ça va se passer comment, ces lectures ?
Est-ce que tu veux, Rosemary ?
Alors, les lectures bilingues, les lectures jeunesse.
Jeunesse, oui.
Voilà, à la cavale, comme les coups de cœur.
C'est cavale. Toujours Louise qui s'occupe des mots bah, où y a, à la cavale ?
Alors, nous, on connaît Sylvie Muller, mais.
Non, mais
en
libraire.
Ah, en librairie, oui.
Oui, c'est Louise.
Oui, oui, d'accord.
Très jolie personnalité, Louise.
Oui.
Très lumineuse et très sympa, vraiment.
Oui, c'est un soleil.
C'est un soleil, oui, tout à fait.
Donc en fait, les lectures jeunesse, comme les coups de cœur, ce sont des rituels qui sont à peu près mensuels, je ne sais pas vraiment la régularité, qui sont toujours organisés à la cavale, avec l'idée que les coups de cœur, c'est chacun peut venir parler d'un livre, de ce qu'il a aimé, de ce qu'il a envie de partager, comme ça, simplement, c'est ça l'idée du coup de cœur. Bon, là, ça a été, c'est passé, ça a été des coups de cœur italiens ou de littérature traduite. Ça a été une soirée aussi très chaleureuse, voilà, très, très sympathique, où on a pu parler librement de nos lectures. Voilà. Et puis, les lectures jeunesse aussi, c'est parce que la littérature jeunesse est tellement riche et tellement foisonnante que c'est important, d'abord, pour atteindre les enfants, les jeunes et les enfants, pour les associer à ce projet de lecture et de lieux de lecture publique. C'est aussi pour ça qu'il y a des lectures jeunesse à la cavale. Là, ça va être des lectures jeunesse bilingues, puisqu'on est dans le mois italien. Et donc, avec Simone et les autres personnes du groupe, on est allé à la médiathèque, on a choisi, on a sélectionné un certain nombre d'ouvrages. Alors, bien sûr, on n'a pas pu rater Gianni Rodari et Tullio Corda, mais Simone en parlera beaucoup mieux que moi.
Il n'y a pas d'enfants qui vont lire des textes en italien, si ?
Alors, en fait, on aime bien improviser. On se prépare, mais on aime bien improviser, donc on verra le public. On a classé les albums à lire probablement par classe d'âge. On verra les enfants qui viennent, les âges qu'ils ont. Aussi, s'il y a réellement... Je pense qu'il y aura plusieurs enfants qui sont réellement bilingues, auquel cas on lira pas mal aussi en italien. Mais si on voit, par exemple, que... les enfants, ils sont surtout francophones. La lecture en italien, ça sera peut-être un peu moindre, juste pour qu'ils puissent apprécier un petit
c'est
peu le son
beau,
de cette autre langue. Voilà. Et je trouve ça très joli. On va le faire avec... Donc, pour les lectures en français, ça va être une coopératrice qui s'appelle Scheherazade.
Ah bah voilà. Alors, elle est née pour ça.
Voilà. Et puis, bon, moi, la ritale de service, je vais faire la lecture en italien. Et donc, Gianni Rodari, on a vraiment choisi plusieurs albums ensemble. C'est vraiment toujours ce travail d'équipe. On a vraiment beaucoup aimé travailler ensemble. Et Gianni Rodari, qui est un auteur extrêmement important pour nous en Italie, c'était un pédagogue, on dit, oui, et qui a beaucoup œuvré pour libérer les esprits critiques des enfants, mais aussi des adultes en Italie. Il y a une montagne de textes qu'on aimerait bien lire, mais on a trouvé quelques albums. Il y en a un que Rosemary aime particulièrement.
C'est le zéro.
Le zéro, voilà.
Le zéro.
Et Tullio Corda, c'était mon copain de lycée et qui maintenant habite à Lyon. Donc lui aussi, il est venu habiter en France et il est connu à Montpellier parce qu'il y a quelques années, il a été invité de la Comédie du Livre, je crois, et surtout, il a exposé à la médiathèque Zola ses planches et il y a laissé aussi des albums et un kamishibai.
Oui.
Voilà.
Ça se fait beaucoup. Je suis bénévole dans une bibliothèque et souvent on fait des kamishibai pour les enfants.
Voilà.
C'est une nouvelle façon d'expliquer aux enfants. Oui, là. Oui. C'est bien, c'est très très chouette. Et donc ça sera donc le...
Après-demain.
Après-demain, ça va vite. Est-ce que c'est sur inscription, Simona ?
Non.
C'est libre.
C'est libre.
Les parents arrivent, nous laissent les enfants viennent, et voilà. Dans la
super,
librairie.
Super. Vous avez confiance, vous, hein ?
Ben oui.
Un peu folle.
Non, mais attends, ça se passe tellement bien.
Oui,
tout
oui,
temps,
oui,
il n'y a
non,
pas
non,
de
bien
raison.
Bien sûr, il n'y a pas de problème. On va marquer une pause musicale et après, j'aimerais qu'on parle pas mal de la soirée de rencontre avec Maddalena Vaglio-Tanet et de son livre. Et puis, voilà, on a encore un peu de temps. On écoute tout de suite. Thank you.
dal giorno in cui sei nato tu. La vita è musica e fantasia. Hai dato un volto alla vita mia ed ora è tua. Il mondo è musica e fantasia. Questo è importante, il resto è una bugia che si racconta chi non ha ironia in vita sua. È musica e fantasia, tienilo a mente, non ti perderai, vedrai crescendo, lo capirai, lo capirai. La vita è musica e fantasia, ma se ti perderai, che vuoi che sia? Basterà viverla con ironia, basterà viverla. Sei grande ormai, fra un mondo diventerai quello che vuoi. Per me tu sei tutto, per me tu sei. Sei musica, tu sei fantasia, tu tutto sei. E i tuoi bracci sono i più belli del mondo, e i tuoi occhi sono i più sinceri, e dentro al cuore ho un amore vero, grande più del cielo. I tuoi bracci sono i più belli del mondo, e i tuoi occhi sono i più sinceri, e nel cuore ho un amore vero dal giorno in cui sei nato tu.
Et chers auditeurs, re-bienvenue dans cette matinée du 27, du jeudi 27 mars, sous un beau soleil printanier. J'ai du soleil dans le studio aussi, puisque je suis en compagnie de Simona Miglietta et de Rosemary Orioles, qui sont venues nous parler de ce mois de la cavale à l'italienne. Et je remercie Léonie, bien sûr, de nous accompagner en régie. On va parler de cette belle soirée du 8 avril, puisque quand on s'est appelé avec Rosemary, j'ai dit « Ah, j'ai pas de place à vous donner avant la fin du mois ». Et puis bon, on a vu qu'il y avait quand même des événements. Heureusement, il y avait une place pour ce matin. Ça nous a permis de parler de ce soir. Et puis on va parler un peu de cette soirée du 8 avec cette autrice, Maddalena Vaglio-Tanet, qui donc va venir parler de son dernier livre. Alors je vous laisse dire avec toutes les deux, et vous aurez un plus bel accent italien que moi. Le titre du livre.
Alors, Maddalena Vaglio-Tanet, en italien, c'est « Tornare dal bosco ». Et en français ?
Sylvia et les ombres.
Ah oui, alors, ça a été changé complètement. Oui. Ouais,
c'est dans les questions que j'aimerais bien lui poser. Parce que c'est un livre qui a été traduit dans plusieurs langues. Et dans la plupart des langues que j'ai vues, c'est assez fidèle au titre en italien.
Tu ne te rappelles pas de l'éditeur en France ?
Robert Laffont.
Ah, chez Laffont.
La Bête
D'accord.
Noire.
Ouais,
la
ouais.
Bête Noire.
D'accord.
Voilà. Et donc, Maddalena Valliot-Tanette, c'est une jeune autrice qui a beaucoup écrit pour l'enfance, la jeunesse. Et maintenant, elle a publié ce premier roman qui part d'un événement qui s'est réellement qui a vraiment eu lieu dans sa famille. Dans les années 70, je ne sais pas si Rosemary oui. veut faire une petite synthèse ou raconter
non,
un peu.
Non, ce que je veux dire, c'est que Simone, tu m'as envoyé donc l'article du journal de cette époque qui relatait ce fait divers. Ça, personnellement, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup bouleversée de savoir qu'en fait, son roman, elle l'a construit à partir de ce fait divers. Et qui était, je développe un peu le fait
oui, divers,
là
oui,
sans trop quand même,
sans trop, en dire,
sans
oui.
trop déflorer le livre. Hein. L'idée c'est que dans les années 70, dans la région du Piémont, dans les montagnes piémontaises, près de Turin, il y a un drame qui a secoué tout un village. Et Sylvia, c'était la maîtresse d'une petite fille qui s'appelait Giovanna, et qui, cette maîtresse, elle a alerté plusieurs fois ses parents, les parents de cette Giovanna, sur ses absences et sur ses difficultés, sur ses comportements. Et en fait, cet enfant, un jour, Giovanna, elle se jette par la fenêtre. Voilà, elle met fin à ses jours comme ça. Et donc, Sylvia, elle est bouleversée, elle est torturée de remords et de culpabilité, et elle décide de disparaître dans les bois. Mais de disparaître dans les bois. Voilà, je ne vais pas en raconter davantage. Moi, ce qui m'a surtout impressionnée, c'est dans le fait divers réel, dans la chronique écrite à cette époque-là, cet enfant, Giovanna, quand elle a décidé de se jeter par la fenêtre, sa mère était dans la pièce à côté, et elle a écrit une phrase qu'elle a ensuite laissée dans la maison. Et dans cette phrase, c'était... Avant de se jeter, elle avait enlevé ses chaussures, elle les avait posées sur le balcon. Et dans ce petit papier, cette demi-feuille, elle a écrit « Mais qu'est-ce qu'elles font ces chaussures sur le balcon ?» C'est l'écrit qu'elle a laissé. Mmh. Elle l'a replié, elle l'a mis dans l'enveloppe, elle l'a laissé. Et moi, je trouve que cette phrase, elle dit toute la vertigineuse solitude de cet enfant et l'incompréhension des adultes qui l'accompagnent.
Et la réaction de la maîtresse face à ça, puisque c'est la maîtresse qui s'isole en forêt, si j'ai bien compris.
Qui s'isole en forêt, mais voilà, peut-être on ne va pas raconter plus.
Non, mais ça donne envie, c'est le pitch.
Oui.
C'est le pitch, merci Rosemary.
Ouais. Oui, cette maîtresse, elle a un petit sens de culpabilité aussi. Ouais. Mais bon, on ne va pas peut-être tout dire.
Ça donne envie, en tout cas.
Ça donne envie. Il y a ce drame et en même temps, il y a aussi des petits passages assez légers parce que quelque part, il y a une choralité, il y a pas mal de personnages, tous dans cette ruralité que l'autrice a bien connue parce qu'elle a grandi là-bas, bien sûr. Et donc, il y a des petits moments amusants, il y a un peu de tout. Et il y a aussi beaucoup de poésie parce qu'en fait, elle écrit aussi de la poésie, cette autrice, Maddalena Valliot-Tanette. Et d'ailleurs, avec ce livre, elle a été finaliste, dans la dernière douzaine du Premio Strega, qui est un prix littéraire. C'est un peu comme le Goncourt italien, mais ça part d'une liqueur, la liqueur Strega. Et elle a aussi été finaliste, je crois, ou peut-être qu'elle a gagné, je ne sais plus, avec un livre pour jeunesse, il y a quelques années. Et elle est aussi très active dans le monde littéraire en général, parce qu'elle a aussi un deuxième métier, plusieurs casquettes, elle aussi. Elle est scout littéraire. Donc, elle va lire des livres un peu dans les langues qu'elle connaît, et puis elle va faire des sortes de rapports, de lectures aux différents éditeurs, éditrices un peu partout dans le monde, qui choisissent ou pas d'essayer d'acheter les droits de traduction de ces livres. Donc, je pense que ça va être une rencontre très intéressante.
Qui est-ce qui l'anime, Simona ? C'est toi qui l'anime ?
Oui, encore moi.
Ouais. Toujours Marie, tu l'accompagnes ou elle fait ça toute seule ?
Alors moi, j'introduis la soirée où je présente le moi et puis je présente un petit peu la cavale s'il y a des personnes qui ne la connaissent pas. C'est tout, mais c'est vraiment Simone qui a travaillé avec, qui va travailler avec Maddalena sur le...
Et tu l'as connue comment ? En fait, on a entendu parler, tu la connaissais ?
On a été contacté. En fait, c'est Robert Laffont, je pense, qui a dû, en faisant la promotion de son livre, qui a dû contacter la librairie. Et c'est comme ça qu'on est allé vers elle, en fait.
Et elle habite en Italie ou elle habite
à Maastricht.
À Maastricht, oui. C'est pas l'Italie.
Non. Et alors, ça serait intéressant aussi parce que justement, nous devrions avoir aussi la présence du département donc italien de l'université, qui est vraiment dans une démarche de s'ouvrir plus à la ville. Hein, et donc, sa présence en librairie, je pense qu'elle est très appréciée. Et son soutien aussi, parce qu'il y a un vrai soutien. Et pareil, comme je disais, l'Institut de Culture de Marseille, qui couvre en fait tout le Grand Sud. C'est incroyable. Il travaille, de Corse jusqu'à Toulouse, au moins. Et pourtant, ils viendront nous soutenir aussi. Ils nous soutiennent déjà concrètement. Et en plus, ils seront présents ce soir-là. Je pense vraiment qu'il y a une très belle dynamique qui s'est formée.
Ça vous donne envie de continuer pour une deuxième édition. Bon, on est en plein dans la première, on va pas parler de la deuxième quand même.
Pourquoi pas.
C'est une belle aventure quand même, on sent.
Il y a vraiment quelque chose qui s'est créé, une vraie dynamique entre nous et avec les partenaires.
Il y a de la capture d'images quand vous faites vous filmez un peu les rencontres ou pas du tout ?
On prend des photos. On n'est pas très performant sur ce point. On prend des photos.
Mais il y a tellement une qualité de rencontre à la cavale que c'est vrai que c'est un développement qui pourrait être imaginé.
Bien sûr.
On parlait du site qui n'est pas tellement à jour comme le nôtre, hein, franchement. Là,
donc,
mais par exemple, filmer les rencontres et les mettre sur Internet, ça serait aussi sympa pour agrandir l'audience. Quoi.
Oui, surtout pour les personnes qui ne peuvent pas assister parce qu'il y en a qui restent dehors. En tout cas, la première fois,
j'imagine.
Après, on s'est déjà posé cette question des fois et on s'est dit, mais on perd un peu en spontanéité dans les échanges on sait qu'on est...
C'est
une question à se poser.
Ça dépend. C'est un travail à imaginer. Il nous reste 3 minutes. Je voulais citer 2 choses. Je voulais citer ce que tu as cité un peu en début d'entretien, que depuis le 4 et jusqu'à samedi, donc il ne reste que 2 jours si vous voulez voir Anima Urbis avec la charmante Claudia Montanari. C'est une belle personnalité, Claudia aussi.
Ah oui.
Forte personnalité. il y a tout ce travail donc plus centré sur la Sicile, si j'ai bien compris.
Sur Palerme.
Sur Palerme même, voilà. Puisque c'est le nom de l'expo, c'était ça, c'était...
Anima Urbis, Palerme, Montpellier, qu'on avait déjà montré à la Maison des Relations Internationales, ça avait fait un tabac.
Mais je pense que ça va continuer à tourner.
Et en plus, on t'avait peut-être dit qu'on avait rencontré l'ancien maire de Palerme qui nous avait donné des tuyaux parce qu'il trouve qu'on devrait vraiment faire voyager cette expo à Palerme aussi.
C'est une très belle expo. Et puis dans la dernière minute, je voulais juste te dire, parce que je suis une grande fan de Georges Perec. Et donc, à partir du 1er avril, qui n'a rien à voir avec l'Italie, mais on le cite, tout le mois d'avril, il y aura une expo Perec. Oui. À la cavale, avec aussi un autre motif d'aller rencontrer la cavale. Ce n'est pas seulement la cavale, une librairie, c'est vraiment un lieu de vie.
Oui, exactement.
Avec des expos, des rencontres. Il y a des très belles rencontres au mois d'avril aussi, d'ailleurs, de prévu.
Oui.
Allez-y, en ce moment, il y a ce besoin d'ouverture et de visibilité que se donne la cavale. Allez-y pour les soutenir. C'est une histoire commune, cette cavale.
Bien sûr.
Il faut que ça continue comme ça, cette maison commune. Merci en tout cas, Simona.
Merci.
Miglietta.
Beaucoup.
Merci, Rosemary. Oriols. On se donne d'autres en rendez-vous très vite pour la cavale. C'est un très chouette moment. Ah, il reste une
minute. Avec plaisir.
Décidément, ça fait 2 fois que je rends l'antenne trop vite. une minute. Alors voilà, vous avez un mot à rajouter en une minute.
Pour dire que à vos auditeurs, venez nombreux à la cavale ce soir et d'autres soirs. Partez avec plein d'images dans vos pensées et dans vos cœurs, et aussi dans des livres dans vos sacs. Parce que la cavale, c'est un lieu où on vend des livres, c'est important d'en acheter. Un livre, c'est un beau cadeau pour soi-même et pour les autres.
Et pour avoir les infos, donc pas le site, Facebook.
Voilà.
Tout est, si vous voulez avoir les événements et tout ce qui va se passer, priorisez Facebook par rapport au site. Le site, ça viendra après.
Voilà, le site, c'est un chantier en cours pour le renouveler, pour le tenir toujours à jour. C'est pas trop le cas en ce moment, mais ça va venir.
Merci beaucoup à toutes les deux. Et puis à demain pour une autre matinée. Et vous me retrouverez encore en compagnie de Barbara et on parlera de l'accorderie. À demain. Au revoir.
Merci.